Bon, donc, premier problème, qu'est-ce qui marque qu'une œuvre traduite est bien une œuvre traduite et non pas un original ? C'est une question simple, comme je l'ai dit, que les universitaires peuvent complexifier à l'envi. J'essaierai de ne pas trop le faire quand même. Mais, alors, la première réponse, donc premier mes trois points sur cette question. Première réponse, bon, c'est une œuvre traduite parce que c'est marqué. Parce que c'est marqué œuvre traduite. Bon, il y a un pacte de la traduction comme il y a un pacte autobiographique, par exemple. Bon, on l'a vu ce matin, depuis quelques années, mais quelques années seulement, en France, les traducteurs voient obligatoirement leur nom figurer sur les œuvres traduites. Ça n'était pas le cas, à supposer que ça soit toujours bien observé, ça n'était pas le cas dans le passé. Et même encore aujourd'hui, parfois, il faut bien chercher le nom du traducteur quand on le trouve. Bon. D'autre part, dans certains cas, les éditeurs, c'est le cas notamment de la littérature de jeunesse, s'en sont moqués totalement. Si vous prenez ce que lisaient mes enfants, il y a plusieurs années, le Club des Cinq. Hein, Club des Cinq, bien connu le Club des Cinq. J'ai regardé de très près le Club des Cinq en roulotte, paru chez Hachette en 1975. Donc je ne parle que de cette édition-là, la seule que j'ai eue entre les mains. Aucune mention de traducteur, et en plus, rien dans le texte, à mon avis, ne peut faire penser qu'il s'agisse d'une traduction. Hein, ça semble vraiment, ça se passe en France, semble-t-il. Bon. Il peut y avoir, bien sûr, là je vais très vite, des fausses traductions. On connaît, bien sûr, le cas de Boris Vian, Vernon Sullivan. On connaît aussi le cas des lettres portugaises. Hein, je rappelle le titre initial, 1669. Le titre initial, c'est anonyme, c'est « Lettres portugaises traduites en français ». Titre de la première édition. Et il y a un avis au lecteur, lui aussi anonyme, qui dit ceci. « J'ai trouvé le moyen de recouvrer une copie correcte de la traduction de 5 lettres portugaises. » Et puis, on ne dit pas quel auteur. On peut penser à 99 et quelques pourcents que c'est bien Guy Rag qui en est l'auteur. Le catalogue de la BNF, toujours en pas le plus, rappelle que c'est toujours attribué à Guy Rag, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore franchi le pas. Et à vrai dire, je pense qu'on peut le franchir, mais enfin bon. Il y a aussi de faux originaux. Hein. Olivier Brusson, paraît anonymement en 1823. En fait, c'est une traduction, adaptation d'une œuvre de Hedda Hoffmann, Mademoiselle von Scudéry, qui est due à Henri de Latouche. Et il faudra plusieurs années avant que l'OFV Mars réussisse à faire connaître vraiment Hoffmann en France. Et puis, il y a également tous ces termes du genre y adopter, de imiter, d'après, etc., etc. Donc ça, c'est l'histoire de la traduction qui peut nous renseigner là-dessus. Et puis, on aboutit à ce qui se passe actuellement, c'est texte français de. Alors ça, c'est surtout le théâtre. Hein. Au théâtre, vous avez en ce moment une infinité de textes français de, mais c'est aussi pour l'allemand. À Rennes va être montée la semaine prochaine, en première mondiale, pour des raisons d'accord, une mise en scène de Thomas Ostermeier, John Gabriel Borkmann, en version allemande surtitrée. Bon, eh bien, c'est un texte allemand, c'est Deutsch von, je ne sais plus trop qui, nach der Übersetzung von. Bon, et Deutsch, ou bien texte français, ça coupe court à toute contestation juridique, en plus. Hein, il n'y a pas de problème. Et on sait bien que si, en droit, il y a une question difficile à trancher, c'est bien celle du plagiat de traduction. Rares sont les procès en plagiat de traduction qui aboutissent. Et pourtant, il y en a eu dès le 18e siècle. Ou le 19e, pardon, le 19e. Bon, par conséquent... Le caractère traduit apparaît, le caractère étranger, mais c'est peut-être davantage le caractère étranger, parfois, qui est souligné. Certaines collections, d'ailleurs, comme les presses orientalistes de France, accentuent les choses. Quand vous achetez une traduction de Ivo Andrić, par exemple, auteur de langue serbo-croate, aux presses universitaires de France, que vous avez une première de couverture sur beau papier glacé avec comme titre « D'étranges pays », il est évident qu'en tant que lecteur, vous êtes déjà incité à voir le texte, hein, je parle du texte, mais je pourrais dire parler de l'œuvre, d'une certaine façon. Donc il y a parfois une sur-indication, une indication d'exotisme qui renvoie le texte étranger, traduit un petit peu à distance. Bon, alors ceci m'amène à une deuxième question, donc mon deuxième point de la première partie toujours. Est-ce qu'on peut identifier une œuvre traduite indépendamment de son marquage comme œuvre traduite. Autrement dit, si on n'avait aucune indication qu'une œuvre traduite est une œuvre traduite, est-ce qu'on réussirait à le démontrer ? Alors, j'évoquais les notices d'appareils électroménagers. On peut penser que certaines d'entre elles sont effectivement traduites de l'italien ou de l'anglais ou n'importe quoi. Bon. On peut également penser qu'il y a des traces justement de langage étranger, de formules étrangères qui montrent que quelque chose ne va pas. Mais si vous prenez, on a parlé ce matin des bienveillantes de Jonathan Little, il y a des formules qui sont peut-être des américanismes, mais qui sont dues à cet auteur de langue française, hein, quand même. Bon. Il y a aussi des passages parfois peu compréhensibles et qui le deviennent si on se dit « Ah, mais le traducteur, que je n'accuse pas », parce que, petite parenthèse, j'insiste bien sur le fait qu'on doit prendre une traduction, une œuvre traduite dans son ensemble. Et on peut critiquer n'importe quelle traduction sur un point de détail. Ça, alors là, c'est une facilité. Bon. Donc, je n'accuse aucun traducteur, mais quand je trouve dans une traduction du livre de Stenner, la mort de la tragédie, un auteur qui s'appelle Livius. En fait, c'est Titlive, parce que ça se dit Livius en anglais. Et qu'il est question d'une pièce d'Ibsen qui s'appelle Les fantômes. En fait, c'est Ghosts. En fait, en français, ça s'appelle Les revenants. Donc, tout ceci sont des petits indices d'ordre civilisationnel qui montrent qu'il y a un problème. Mais récemment, j'ai lu une présentation de Strindberg où il était question de la pièce La route de Damas. Nach Damaskus en suédois, en fait, c'est le chemin de Damas en français. Bon, c'est la traduction. On aurait pu dire la route de Damas. Simplement, depuis Saint-Paul, depuis la lettre de Saint-Paul, ou du moins les commentaires, on est habitué en français à parler du chemin de Damas. Bon, donc, il y a quantité d'éléments, je n'insiste pas là-dessus, quantité d'éléments qui peuvent faire penser qu'on a affaire à une œuvre qui n'a pas été écrite originellement dans la langue dans laquelle on lit cette œuvre en question. Bien, je pourrais accumuler les exemples, je passe. Mais, comme on l'a dit également ce matin, notre civilisation, je parle de notre civilisation, je dirais civilisation, disons, européenne, éventuellement occidentale, notre civilisation, enfin celle dans laquelle je suis, est une civilisation qui est fondée sur la traduction. La Bible, nous la connaissons par des traductions. Soit la traduction des Septante, soit la traduction de Saint Jérôme. Bon, on est revenu après à des traductions de l'hébreu, mais personne ne peut dire actuellement si l'évangile de Luc a été écrit directement en grec ou non, si l'évangile de Jean a été écrit directement en grec ou non. On peut le penser, on n'en est pas sûr. Il y a des araméismes dans le texte de Luc qui semblent montrer le contraire. On ne sait pas pour le Vieux Testament ou le Premier Testament, comme on dit maintenant, si le livre de Tobit a été écrit en grec ou bien s'il y a très probablement un original araméen. Donc, la réponse à cette question, peut-on identifier une œuvre traduite indépendante de son marquage comme œuvre traduite, ma réponse est donc non, ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible, les critères internes ne suffisent pas. Alors, on peut essayer d'aller non pas plus loin, mais de poser une question peut-être, je ne dirais pas iconoclaste, non, quand même, mais je parle d'œuvre traduite. Et si nous parlions d'œuvre originale, quand nous lisons une œuvre originale, sommes-nous sûrs de bien lire une œuvre originale ? Est-ce qu'on peut toujours bien identifier une œuvre originale comme une langue originale ? Je ne prendrai que des exemples qu'en français. Prenons le cas de la typographie. Qui d'entre nous, sauf les spécialistes, serait capable de lire Gargantua et Pantagruel dans la typographie en caractère gothique et avec les longs paragraphes qui se tiennent de Rabelais ? Moi, certainement pas. Quand je dois consulter dans la bibliothèque de la Pléiade les romans du XVIIe siècle édités par Antoine Adam, je souffre parce qu'il a respecté non seulement l'orthographe, mais également la disposition des dialogues. Et c'est infernal pour moi de m'y retrouver. Au XVIIe siècle, j'imagine que le lecteur s'y retrouvait sans problème. Quand dans la même Pléiade, je lis les œuvres de Rousseau, nous sommes au XVIIIe siècle, c'est la même chose. Là, c'est moins difficile. Mais l'orthographe n'est pas la même, il y a des majuscules, la ponctuation est différente. Bon, tout ceci fait problème. Donc la typographie joue un rôle. Autre problème, le problème du format ou du nombre des volumes. Certain nombre de romans ont été publiés précisément plutôt en in octavo ou en duodécimo, en petit format. Nous les rééditons parfois en grand format. La question du format joue un rôle, surtout bien entendu, quand on passe de l'étranger à la France, mais même du point de vue de la France. Qu'en est-il des illustrations voulues ou non par l'auteur ? On connaît les plaintes de Flaubert à ce sujet, par exemple. Bon. Le même Flaubert. Combien d'éditions de l'éducation sentimentale portent le titre complet ? L'éducation sentimentale Histoire d'un jeune homme. C'est le titre complet, voulu par Flaubert, et c'est celui qu'il a gardé jusqu'à sa mort. Et toujours l'éducation sentimentale, Flaubert a fait des corrections, mais de telle façon, sur des exemplaires différents, et c'est le cas également d'Anne Bovary, qu'on n'a pas d'édition qui serait vraiment celle que Flaubert aurait, semble-t-il, voulu à sa mort. Et puis on en arrive, je ne dirais pas c'est un dernier stade, mais pour montrer simplement que l'œuvre originale tend à nous échapper un petit peu aussi, hein, parfois. Nous lisons un original qui est quoi ? Eh bien, on a réinventé il n'y a pas très longtemps, ou plutôt réutilisé, le vieux mot de translation ou de translater. Les éditions Hachette ont publié, il y a deux ou trois ans, une tentative tout à fait intéressante de Bruno Roger Vasselin, que je ne connais pas, qui propose des chapitres entiers en bilingue, des essais de Montaigne, avec le texte original d'un côté et la traduction, ce qu'il appelle translation, de l'autre. Donc, nous arrivons à un moment où nous sommes obligés de traduire, de translater, des translations intralinguistiques. Je dis nous arrivons, j'ai tort. Dès le XVIIIe siècle, vous trouvez des éditions de l'introduction à la vie dévote de François de Sales, parue, je crois, en 1620 à peu près, qui sont mises en un français, je ne sais pas si c'est le mot moderne, mais écrites à l'usage des gens qui sont peu familiers avec le vieil langage, comme il est dit dans les traductions. Autrement dit, nous sommes au XVIIIe siècle. Bon. Donc, tout ceci pour dire que l'œuvre originale ou l'œuvre traduite, bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement un texte, c'est aussi un texte dans sa constitution, dans un certain volume, avec des illustrations, dans un certain format, ce qui fait que l'original est finalement assez rare. Je prendrai un tout dernier exemple. Les éditions des œuvres romanesques de Sartre dans la Pléiade, sur la même page, vous avez la dédicace au Castor, hein, au Castor, et une citation de Céline. Bon. Dans l'œuvre originale, c'est sur deux pages différentes. Alors, il y a une note, d'ailleurs, de Ribalta et de Conta qui explique pourquoi ils ont choisi de faire ça. Bien. Donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas seulement affaire à des textes, mais à des œuvres dans leur complexité. Et la conformité à la volonté de l'auteur est certainement plus difficile à respecter dans le cas d'une œuvre en traduction, d'une œuvre traduite, mais elle existe aussi dans le cas d'une œuvre originale. Alors, c'est donc exacerbé dans le cas d'une œuvre en traduction, et c'est exacerbé pour deux raisons supplémentaires au moins qui me servent de transition pour mon deuxième grand point. C'est que, comme je l'ai dit, enfin, c'est une de mes croyances, mais c'est une croyance, je crois, largement répandue, c'est qu'on traduit une œuvre, on ne traduit pas une langue. Alors, bien sûr, hein, on traduit d'une langue dans une autre, mais on traduit une œuvre. Et donc, ça, c'est le point central. Et deuxième point, et là, je m'appuierai sur tous les linguistes que vous voudrez, de Jacobson à Hagege, en passant par Benveniste et autres, c'est que les langues diffèrent entre elles, nous le savons tous, bon, bien sûr, par leur grammaire, leur vocabulaire, mais essentiellement, et ça, ils insistent bien là-dessus, par ce qu'elles sont obligées d'exprimer. Hein. Elles peuvent, toute langue peut tout exprimer. Hypothèse fondamentale. Mais chaque langue doit exprimer un certain nombre de choses. Alors, j'en aurai quelques exemples tout à l'heure, mais ils sont connus. Alors, le problème, mais ça, je remonte un petit peu en aval, c'est que lorsque l'on traduit une œuvre, on traduit une œuvre dans une langue, et que précisément, une des tâches du traducteur, pour reprendre l'expression de Benjamin, c'est peut-être d'essayer de faire œuvre. Est-ce possible ?